Alors, vous voyez l'affiche de cette série. On voit Marie et Joseph avec Jésus. C'est une image un peu comme de l'aquarelle qui est peinte. Et il y a l'étoile aussi qui est là. Et c'est marqué « N'ayez pas peur ». Merci pour les moments de prière qu'il y a eu qui montrent bien qu'avoir peur, c'est quelque chose de naturel, en fait, des humains. De nous en tant qu'humains. Et je pense que c'est peut-être pour ça que tellement de fois, Dieu est en train de rassurer pendant tout le récit de la naissance de Jésus, n'ayez pas peur. La Bible a beaucoup de passages dans l'Ancien Testament qui annoncent la naissance d'un libérateur ou qui annoncent le lieu où il va naître ou qui annoncent, par exemple, la manière qu'il va mourir. Mais il y a très peu de temps, il y avait une critique récurrente qui disait que ces textes avait été modifié au fil du temps. Les gens ils se disaient, ça a dû être truqué parce qu'il y a des choses qui ressemblent beaucoup à ce que Jésus a vécu. Ils disaient ça plutôt par rapport à l'Ancien Testament qu'au Nouveau, parce que les textes sur Jésus ont moins de chances d'avoir été modifiés, vu qu'on a beaucoup de copies qui ont été retrouvées dans beaucoup de lieux dans le monde, ou d'extraits de copies, et puis ils se correspondent toutes, celles-là. Tout ce qui est fondamental, tout est OK. Des fois, c'est des virgules ou des mots qui ont été modifiés, des choses très, très, très simples. Donc, il disait ça plutôt par rapport à l'Ancien Testament qu'au Nouveau, justement, parce que les chances du Nouveau Testament d'avoir été modifiées, c'est beaucoup plus dur par rapport à toutes ces copies, ces extraits de copies qu'il y a, des copies très anciennes. Mais pour l'Ancien Testament, la copie la plus ancienne qu'on avait était de l'année 1008 jusqu'à il y a très peu de temps. Qui pouvait garantir que c'est comme ça que c'était écrit avant la naissance de Jésus-Christ, vu que la copie la plus ancienne qu'on avait, c'était de 1008. Du coup, il se disait peut-être les chrétiens ont modifié l'Ancien Testament, genre ils ont changé les prophéties pour que ça soit juste, pour que ça corresponde au texte du Nouveau Testament. Mais très récemment, en 1947, il y a seulement 80 ans, du coup, ils ont découvert des manuscrits dans des grottes, dans un lieu qui s'appelle Qumran, tout près de la mer Morte. Et on a trouvé, par exemple, le livre d'Ésaïe en entier, et qui date d'à peu près 200 avant Jésus-Christ. C'était sûrement la plus grande découverte du siècle en termes de textes anciens. Là, il n'y avait plus de doute, ils ont trouvé des extraits de tous les livres bibliques, sauf de l'Ancien Testament, sauf Esther. Mais Ésaïe, c'était juste fantastique. Ésaïe, ils ont trouvé. Et je dis ça parce que c'est à partir du livre d'Ésaïe que j'aimerais commencer à réfléchir à la naissance de Jésus. Dans le chapitre 8, Ésaïe est en train d'annoncer qu'Israël sera attaqué par l'Assyrie. Le texte dit comme ça. Le peuple de Juda méprise l'eau du canal de Siloé, qui coule doucement. Et il se décourage devant Résin et devant le fils de Remalia. Eh bien, je vais faire monter contre lui l'eau abondante et violente de l'Euphrate, c'est-à-dire le roi d'Assyrie et sa grande puissance. L'Euphrate montera de plus en plus et débordera. Le canal de Siloé, c'était un canal qui amenait de l'eau potable d'une source qui était en dehors et puis que ça amenait de l'eau à l'intérieur de Jérusalem. Résin était le roi de Syrie et le fils Remalia, Pekah, était le roi d'Israël. Bien sûr, c'est juste une image. Ils ont oublié la vraie source d'eau. C'est ça ce qu'il veut dire. Là, c'est une eau potable. Et puis, Ésaïe était en train de dire, ils ont oublié Dieu qui pourrait les rassasier comme ce canal d'eau potable qui apportait de l'eau dans la ville. Donc, il n'y a rien de nouveau. On se dit parfois, ah, c'est la laïcité, les églises sont vides, on ne parle plus de Dieu. C'était mieux avant. C'était mieux avant. C'est pas vrai, parce que tout le temps dans la Bible, dans toutes les époques décrites dans la Bible, presque dans chaque livre, les personnes abandonnent Dieu et vivent une vie tout à fait laïque. Dans toute la Bible, il y a ça, ce phénomène-là. Je veux dire, une vie vécue comme si Dieu, ils vivent une vie comme si Dieu n'existait pas ou comme s'il n'avait pas d'importance. C'est pas nouveau. Tout le temps dans la Bible, Dieu appelle des prophètes pour montrer cette erreur du peuple et les dangers qui viennent avec. C'est très récurrent, en fait. Et c'est le cas aussi d'Ésaïe. Il annonce au peuple, vous avez placé votre confiance à la mauvaise personne et aux mauvaises choses. Du coup, la conséquence viendra. Vous allez perdre vos repères, vous allez essayer de s'agripper à n'importe quoi, forcément prendre de mauvaises décisions dans le désespoir, et ça va finir par apporter plus de malheur encore. Et oui, pour Ésaïe, c'est une situation dramatique pour son pays, pour la ville où il vit, pour les personnes qu'Ésaïe aimait. Mais le Seigneur enseigne Ésaïe à vivre ces temps en paix. Le texte continue, le Seigneur m'a saisi et il m'a commandé de ne pas imiter la conduite du peuple de Juda. Il m'a dit, ne parlez pas de complot chaque fois que ces gens parlent de complot. N'ayez pas peur de ce qui leur fait peur. N'ayez pas peur d'eux. Ésaïe est sur le point d'annoncer, peut-être pour la première fois dans son ministère, la naissance de Jésus. Il est sur le point de l'annoncer. Mais d'abord, Dieu dit, pour maintenant aussi. N'aie pas peur. Ce n'est pas seulement ceux qui verront la naissance de Jésus qui peuvent être tranquilles. Toi aussi, Ésaïe, aujourd'hui, dans ces temps difficiles, n'aie pas peur. Et pendant cette série, c'est la même chose pour nous, mais en sens inverse. Les n'ayez pas peur ont été annoncés à plusieurs fois, à plusieurs personnes, il y a très longtemps, mais Dieu veut également l'adresser à nous aujourd'hui. Et Dieu continue à lui dire. C'est l'Éternel, le maître de l'univers, que vous devez respecter comme saint. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Il sera alors un sanctuaire, mais aussi une pierre qui fait obstacle, un rocher propre à faire trébucher pour les deux communautés d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Le même Dieu peut être un sanctuaire, mais il peut aussi être une pierre d'obstacle. Des personnes vont voir le même Dieu, écouter les mêmes paroles, et certains vont l'adorer, vont vouloir qu'il devienne le sanctuaire, la personne pour laquelle on dirige notre adoration. Et d'autres, en ayant écouté les mêmes choses, peuvent être scandalisées et dégoûtées. Et elles vont vouloir s'éloigner au lieu de faire de lui un objet d'adoration. Et Dieu sait déjà que ça va se passer comme ça. Il ne faut pas se désespérer. Quelle a été la réponse d'Ésaïe? Il a dit. Je compte sur l'Éternel, même s'il se cache à la famille de Jacob. Je me confie en lui. Mais voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous servant de signes et de présages en Israël de la part de l'Éternel, le maître de l'univers qui réside sur le mont Sion. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Les grandes femmes et les grands hommes de la Bible avaient ça en commun. Les difficultés venaient, ils plaçaient leur confiance en Dieu. C'était leur décision de vie. Je compte sur l'Éternel, même s'il se cache à la famille de Jacob. Je me confie en lui. Et ce n'est pas le premier qui a dit que ça ne valait pas que personnellement. Il a dit la même chose que d'autres avaient dit avant lui. Je vais guider toute ma famille dans cette démarche, moi et ma famille. Je me considère responsable envers eux aussi, et peut-être premièrement. Et en ayant décidé ça pour lui-même, il enseigne maintenant aux autres, Ésaïe. Le texte continue. Si l'on vous dit, consultez ceux qui invoquent des esprits et les spirites, ceux qui chuchotent et murmurent, un peuple ne consultera-t-il pas ses dieux? Ne consultera-t-il pas les morts en faveur des vivants? Répondez, il faut revenir à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas de cette manière, il n'y aura pas d'aurore pour ce peuple. Il parcourra le pays accablé et affamé. Et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu, et tournera les yeux en haut. Puis il regardera vers la terre, et il n'y verra que détresse, obscurité, et sombre et angoisse. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Si quelqu'un cherche à mettre sa confiance dans quelque chose d'autre, c'est notre devoir de répondre. Il faut revenir à la loi et au témoignage. C'est-à-dire, à la loi, c'est ce que Dieu nous demande, ses commandements. Et au témoignage, un témoignage, c'est quelque chose qu'on a vécu avec Dieu. De rappeler ce qu'on a vécu avec Dieu pour guider les personnes. Par exemple, ce mercredi, on avait la joie d'avoir les rencontres avec les Ukrainiens. Et Mélina, et on était les deux occupés aussi dans la préparation de cela, moi et Clarissa. Et puis Mélina, quand elle arrive de l'école, Elle voulait directement montrer les choses qu'elle avait fait. Et puis j'ai dit, ça joue pas maintenant, on n'est pas concentré pour ça. Après, on pourra voir ça. Puis il a essayé d'un peu assister, et puis Théo, s'il voulait d'autres trucs, j'ai dit, écoutez, en ce moment, c'est pas possible. On va pas pouvoir voir ça maintenant, mais on va le voir plus tard. On prendra le temps pour ça. Et puis, j'étais un peu déçu, normal, d'être un peu déçu, parce que ne pas recevoir ce qu'on veut à ce moment-là. Et alors, le soir, quand on était justement qu'avec eux là, j'ai dit, tu sais, vous savez, Melna Théo, venez ici. La Bible, elle dit, donc citer un commandement de Dieu, la Bible, elle dit qu'il y a un temps pour tout. Et du coup, il y avait le temps d'être complètement consacré aux Ukrainiens. Et maintenant, on a un temps complètement consacré pour vous, sans interruption d'une autre chose. Et c'est bien comme ça. Et je peux dire, et rappelez-vous aussi, hier, on a pu faire ça, ça, ça ensemble. Samedi, on va pouvoir faire ça, ça, ça ensemble. On aura du temps 100% consacré pour vous. Et des fois, il y a des temps qu'on doit être 100% consacré ailleurs. C'est tout à fait normal. Ce qui ne serait pas normal, c'est que l'un ou l'autre devienne toujours la règle. Ça, c'est pas normal. Rappelez un commandement de Dieu, il y a un temps pour tout, et donnez le témoignage. On prend du temps pour vous aussi. C'était juste pas le bon moment à ce moment-là. C'est le même principe qu'on a pris jusqu'à présent pour les réflexions au CDP. Sauf qu'on commence par le témoignage. On commence à réfléchir où on a vu Dieu agir dans notre expérience en tant que communauté. Et où on sent que Dieu s'est attristé dans notre expérience en tant que communauté. C'est le témoignage. Qu'est-ce qu'on a vécu avec Dieu et qu'est-ce qu'on a senti que Dieu a été attristé. Et par la suite, la loi, quels versets nous viennent à l'esprit à propos de cette situation? Et puis alors, on prend des décisions. La loi et le témoignage ensemble. Ce que Dieu demande et l'expérience qu'on a déjà eue, on réfléchit à ça ensemble pour ensuite prendre des décisions. Et pourquoi une demande de revenir à la loi et au témoignage? Pourquoi? Parce que si on ne fait pas ça, on marchera dans la nuit. Le texte dit, il n'y aura pas d'aurore pour ce peuple. Du coup, chacun suivra le cours de sa vie, accablé et affamé. Accablé parce qu'il n'y a rien qui lui apporte la joie véritable. Et puis affamé parce qu'il n'y a rien qui satisfait pleinement. On devient comme un ballon de fête que les enfants jouent. On va d'un côté à l'autre, d'un côté à l'autre, sans une direction claire. C'est juste lancé d'un côté à l'autre. La personne, le texte dit, va finir par s'irriter et maudire Dieu parce qu'il vit une vie aussi malheureuse. Et après, en regardant la situation autour d'elle, elle ne verra que détresse, obscurité et sombres angoisses. Il parle d'angoisse, et je vais remplacer ce mot par peur. La peur peut aussi venir quand on cherche l'espoir à la mauvaise place, ou la sécurité à la mauvaise place. Si on voit que ça ne va pas nous donner la sécurité qu'on a besoin, ça apporte forcément de la peur. Donc regardez la conséquence, la personne décide de ne pas se tourner vers la loi, ce que dit la Bible, et le témoignage, ce qu'elle a vécu avec Dieu dans le passé, ou ce que d'autres personnes ont vécu avec lui. Alors il n'y a pas d'aurore, il n'y a pas de lumière pour guider ses décisions. Dans le noir, elle se sent de plus en plus accablée. Que décider? Qui écouter? Que faire? Et la fin de quelque chose pour satisfaire ce vide, elle ne trouve rien. Elle finit par s'irriter contre Dieu et tomber encore plus dans l'obscurité et la peur. Ça fait un cycle vicieux. N'ayez pas peur de ce qui leur fait peur. N'ayez pas peur d'eux, a dit Dieu à Ésaïe. Et Ésaïe a répondu, je me confie en toi, je compte sur l'Éternel, même si. Du balcon de la chambre de Mélina, on a la vue sur les montagnes au loin, et comment on voit la place du château d'ailleurs. Et souvent, comment elle est la météo, quand on regarde de loin et qu'on voit toute une chaîne de montagnes, c'est un peu difficile de bien se rendre compte laquelle est plus proche, laquelle est plus loin et laquelle est entre les deux. Ça semble tout un seul bloc, juste comme ça. Sans notion sans perception de distance. Un prof nous a dit une fois que les prophéties dans la Bible sont un peu comme ces montagnes au loin. Il y a des trucs qui sont directement pour le présent de ceux qui écoutent le message, d'autres sont pour un futur proche et d'autres encore sont pour un futur très lointain. Et ce n'est pas toujours simple de les séparer. Qu'est-ce que de la prophétie est pour le moment présent? Qu'est-ce qui est pour un peu plus loin? Qu'est-ce qui est pour un peu plus distant? Et parfois, ce n'est même pas nécessaire parce que dans beaucoup de cas, la prophétie a son application dans les trois contextes, tant pour le moment présent, comme pour le futur proche, comme pour un futur lointain. Mais jusque-là, ce qu'on vient de lire semble bien s'appliquer au contexte immédiat dans lequel Ésaïe vivait. Il parle vraiment de ce qu'il vivait, de ce qu'Israël vivaient. Mais à partir de maintenant, le texte commence à parler d'un futur assez lointain. Et il dit comme ça, c'est la suite. « Toutefois, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert de mépris le territoire de Zabulon et de Nephtali, dans l'avenir, il couvrira d'honneur la route qui suit la mer, la région à l'est du fleuve Jourdain et la Galilée. » Et il dit des choses très précises. Il dit « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre et de la mort, une lumière a brillé. » Et là, il dit « N'aie pas peur, il y a de l'espoir. » Il continue « Seigneur, tu fais grandir la nation, tu rends sa joie immense. On se réjouit en ta présence, comme on se réjouit à la moisson, comme on crie de joie en partageant le butin. » Encore une fois, n'aie pas peur. Remplace la peur par la joie, une joie immense. Comme on se réjouissait quand on devait cueillir et puis on avait de la nourriture de nouveau. Puis il dit, il y a de la joie qui va venir. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, le gourdin de son oppresseur, toi, tu les as brisés, tout comme au jour de la défaite de Madian. Du coup, n'aie pas peur, il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de joug, il n'y a plus quelque chose sur les épaules qui pèse, il n'y aura plus ça. N'aie pas peur, il n'y a plus de condamnation. Et finalement, il annonce la naissance de Jésus. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. Et là, c'est intéressant de se rappeler que dans le contexte de peur dans lequel il était en train de vivre dans cette époque, Dieu avait déjà dit « N'aie pas peur pour toi aujourd'hui. » Et sache aussi que dans le futur, il naîtra quelqu'un qui va apporter cette joie immense, cette lumière dans les ténèbres, qui va briser ce joug qui repose sur les épaules des personnes. C'est un enfant qui sera né. Et cette souveraineté qu'il annonce. Il y a quelqu'un qui est souverain sur toutes les situations. Du passé, du temps où il est né, ou aujourd'hui aussi. Donc, n'aie pas peur, un enfant est né, pleinement souverain. Souverain sur toutes les situations. J'aimerais prier. Seigneur Jésus, merci pour ce message que tu as transmis déjà à Esaïe dans un contexte difficile qui était déjà le sien. Merci de l'avoir guidé petit à petit, l'avoir rassuré déjà pour son présent et de l'avoir annoncé des belles choses pour le futur qu'on va célébrer pendant cette période de Noël. On a déjà écouté quand tu nous as dit dans plusieurs situations de notre vie, n'aie pas peur. Comme dans les prières qu'on a pu avoir ce matin, que tu nous as aussi rassurés, nous rassures encore aujourd'hui. Je te demande que ça soit une conviction profonde. Seigneur, cet enfant qui est souverain et qu'on puisse expérimenter à nouveau cette lumière dans l'obscurité par ta loi, ton témoignage, cette libération du joug, peut-être de la culpabilité au Seigneur, peut-être d'une peur, Seigneur, qu'on a expérimenté ça de nouveau. Cette joie immense, Seigneur. Un enfant nous est né. Que ce Noël soit rempli de joie. Une joie réelle, une joie vraie, une joie profonde, Seigneur. Nous et notre famille. Amen. Bien sûr, il n'a pas terminé là, l'annonce de la naissance de Jésus. Il y a une suite. On va voir la suite de ce texte dimanche prochain.